Radio Stable.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Une guerre qui s'embourbe, des morts qui ont 20 ans à peine, des campus en ébullition, djembés à la guitare, un leader noir assassiné, un candidat à l'investiture assassiné lui aussi. On a tous quelque chose en août 68. Toute la semaine, ce soir, nous sommes aux États-Unis. Ça a été une année plus que dense de l'autre côté de l'Atlantique. Tous les 68 du monde, d'ailleurs, commencent peut-être là. Et on y vient tout de suite, ce soir également sous les radars. Et Florence Paracuelos, une candidate in the city à New York, qui fait son premier discours des enfants qu'on ne surprotège plus. Et c'est une grande tendance qui monte, notamment en Grande-Bretagne. On le verra avec Florence Paracuelos. 18h50, le cinéma en VO, c'est Eva Bettan et Seth Wim Wenders à revoir. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Vous verrez que c'est formidable. Il n'y a plus de migrants en Méditerranée, à moins que ce soit parce qu'il n'y a plus de bateaux pour les secourir. Le monde est vaste. Le compteur est à 68. Soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Hell no, we won't go. On n'ira pas, certainement pas. Bonsoir Corentin Célin.
Bonsoir.
Vous êtes professeur agrégé, spécialiste des États-Unis. Ce qu'on entend là, évidemment, ce sont les manifestations de 68 contre la guerre du Vietnam. Il y en avait eu déjà à partir de 64, mais celles-là sont probablement encore plus importantes. L'image de 68, Corentin Célin, c'est peut-être celle-là, en fait, c'est ce qu'on entend.
Oui, c'est tout à fait, puisque c'est vraiment lors du premier trimestre 1968 que le renversement de l'opinion, le renversement majoritaire contre la guerre s'opère. Lors de vraiment des mois de janvier, à cause de l'offensive du Tet, on y reviendra. Et puis ensuite, à cause de l'abandon par certaines élites du soutien à la guerre du Vietnam, poussé par justement ces masses étudiantes. Et après mars 1968, l'opinion est majoritairement contre la guerre, ce qu'elle n'était pas encore fin 67. Et surtout, ces étudiants ont réussi à influencer, on le verra aussi, le processus électoral, puisque 1968 était aussi une année présidentielle aux États-Unis.
Et on verra effectivement ce qui se passe avec Johnson, parce que les choses sont directement, en découlent directement. Commençons par le début, cette fameuse offensive du Tet, c'est la parfaite victoire à la Pyrrhus, finalement. Parce que c'est une victoire et une énorme défaite.
Oui, tout à fait. C'est une victoire militaire, mais que les militaires américains, et en particulier le général qui commandait l'armée américaine au Vietnam à l'époque, le général Westmoreland, n'a pas su vendre ni à l'opinion, ni aux politiques. Pourquoi ? Parce que les sud-vietnamiens résistants, soutenant le Viet Minh, ceux que les Américains appelaient le Viet Cong, le Front National de la Libération, ont lancé une attaque surprise qui leur a coûté énormément d'hommes. Les pertes ont été immenses chez les Viet Cong. Et pourtant, c'est eux qui ont semblé symboliquement remporter la victoire parce qu'ils ont réussi à surprendre la grande puissance américaine. Et en particulier, il y a toute cette histoire qu'ils pénètrent dans les jardins de l'ambassade américaine à Saigon. Donc par surprise, lors de ce jour férié où les soldats sud-vietnamiens qui servaient avec les États-Unis se reposaient, se préparaient à la fête. Et en fait, ils ne vont pas entrer dans l'ambassade, mais les premières relations faites par les médias et par la presse sur place disent l'ambassade a été prise, l'ambassade américaine a été prise. Et là, tout à coup, cette annonce, c'est un peu comme un électrochoc, c'est-à-dire que la puissance états-unienne serait bousculée par ceux qu'on considérait encore largement à l'époque, au moins dans l'opinion publique, comme des soldats en guenilles. Donc, et là, c'est vraiment un choc, c'est vraiment un renversement.
D'autant que ça doit être normalement ce qui termine une bonne fois pour toute cette guerre, en fait. C'est comme ça aussi qu'elle est vendue à l'opinion. Cette fois-ci, on va en finir. On donne un grand coup, puis c'est fait.
Tout à fait. Puisqu'en fait, alors, donc, aussitôt l'offensive lancée, les Américains qui avaient vu venir le coup rétablissent à... pas facilement, mais rétablissent assez rapidement la situation appuyée par les sud-vietnamiens qui les soutiennent. Et, à part dans la ville de Hue, où ça prend plus de temps, mais c'est une victoire militaire énorme. Et surtout, je le répète, le Viet Cong est vraiment décimé. C'est des dizaines de milliers de morts. Ses infrastructures, en particulier le contrôle vraiment des esprits sur les troupes, est diminué. Et donc, à ce moment-là, Westmoreland, le général, dit « Ah, c'est le moment, comme vous le disiez, de frapper un grand coup, d'y aller franchement, et c'est là qu'il va demander les 206 000 hommes supplémentaires pour éradiquer la menace communiste au sud du Vietnam. » Et Le problème, c'est qu'il n'a pas compris que l'opinion publique, à cause des relations faites par les médias, mais aussi parce que certains hommes politiques, surtout dans l'entourage de Johnson, pense que la situation n'est pas gagnable au long terme. Lui, il va demander ses 206 000 hommes supplémentaires et finalement, Johnson dira, bah non, on ne les donnera pas parce que cette guerre, on ne peut pas la gagner.
Mais comment ça vient, Corentin Célin, jusqu'aux États-Unis avec quel effet retard? À quel moment on réalise qu'on est au tournant de la guerre, qu'il est en train de se passer quelque chose?
Alors, ça, c'est encore très discuté aujourd'hui parce que pendant longtemps, on a dit, il y a eu ces images choc, hein, la fameuse image du chef de la police sud-vietnamienne de Saigon qui, après l'offensive, abat un Viet Cong attaché.
Une image d'Eddie Adams qui a traversé l'histoire.
Voilà. Et on a dit, ce sont ces images qui ont renversé l'opinion. Les choses paraissent plus subtiles parce qu'on sait, par exemple, que cette photo n'a amené que quelques lettres de récrimination de personnes choquées. Vraiment, il y a assez peu, en fait, finalement. Ce qui a plus sûrement marqué, si on veut vraiment parler d'influence des médias, c'est le revirement, par exemple, de Walter Cronkite, qui était vraiment la star de la télévision américaine de l'époque. C'est celui qui avait annoncé la mort de Kennedy, on s'en souvient, qui était vraiment une immense star, et qui, fin février, donc un mois plus tard, alors qu'il était un fervent supporter de la guerre, c'était un démocrate conservateur, ami Johnson, il dit face caméra, cette guerre, on peut plus la gagner.
Eh ben, écoutons-le.
This is Lieutenant Colonel Dan Farr of Los Angeles, commander of the 8th Fighter Bomb.
Alors en deux temps, ça c'est lui qui est sur place, qui raconte, parce que effectivement, vous le disiez, Walter Cronkite, c'est le journaliste. Tout le monde écoutait ce qu'il disait et tout le monde avait une foi énorme en ce qu'il disait. Il va couvrir cette guerre et lorsqu'il revient, puisqu'il faisait une sorte d'édito au début ou à la fin de son journal sur CBS à chaque fois, lorsqu'il revient, voici ce qu'il dit aux Américains.
Now more certain than ever that the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate. But it is increasingly clear to this report that the only rational way out then will be to negotiate, not as victors, but as an honorable people who lived up to their pledge to defend democracy and did the best they could.
Ce qu'il dit, là, Walter Cronkite, c'est « Il semble maintenant, plus que jamais, que l'expérience sanglante du Vietnam se terminera dans une impasse. Il semble que la seule voie rationnelle, ce soit de négocier, non pas comme des vainqueurs, mais comme des gens honorables, qui ont tenu leur promesse de défendre la démocratie et qui ont fait ce qu'ils ont pu. » Corentin Célin, il paraît qu'après ça, Johnson dit « Si j'ai perdu Cronkite, j'ai perdu toute la classe moyenne américaine. »
Oui, effectivement, ça a été confirmé, il l'aurait dit, parce que les deux hommes étaient vraiment très amis et étaient à peu près sur la même ligne idéologique, démocrate, plutôt on va dire conservateur en ce qui concerne la politique extérieure, partisan de la puissance américaine. Et effectivement, là par contre, ce revirement de Cronkite, c'est un moment fort et c'est un moment qui marque. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y a quand même 86 millions d'Américains qui ont déjà un poste de télévision, puisqu'on est déjà à la fin de la décennie des années 1960. Ce sont aussi ces États-Unis à télévision, où la télévision a un poids jamais connu et que n'aura jamais la presse écrite. Et effectivement, c'est ce qui commence à amener Johnson sur le chemin de la décision du 31 mars, où il annonce conjointement un ralentissement des bombardements au Nord-Vietnam, une offre de négociation aux partis, c'est-à-dire Nord-Vietnam, Viet Cong et le régime sud-vietnamien pro-américain, et son propre retrait de la vie politique. Et vraiment, il y a une espèce de continuum à partir du revirement de Cronkite jusqu'à un mois plus tard, donc fin mars, la décision de Johnson.
Et pendant ces moments-là, donc les campus aux États-Unis sont en ébullition partout aux États-Unis, et ça commence forcément à Berkeley, parce que le symbole de l'ébullition du free speech, c'est Berkeley. Le free speech est né en 1964. J'avais promis qu'on ferait des allers-retours passé-présent dans cette émission pour bien vous faire comprendre ce que ça signifiait à ce moment-là. Je voudrais qu'on y aille justement à Berkeley, voir ce que c'est aujourd'hui, ce que ce moment-là a signifié pour les gens qui y sont. C'est un reportage signé Loïc Piala.
Pleut sur Berkeley, ça n'enlève rien à l'enthousiasme de Caroline, pétillante étudiante en charge de la visite du campus.
Notre département d'anglais est numéro 1 dans le monde. Notre département de chimie est numéro 1 dans le monde. C'est fantastique d'étudier ici. Nous avons découvert 17 éléments chimiques. Nos prix Nobel ont réorganisé le tableau périodique des éléments. C'est vraiment une école.
Berkeley, la meilleure université publique du pays, c'est aussi l'une des plus à gauche. Sur l'artère principale, à côté d'une annonce pour des cours de danse du ventre, une affiche dénonce la censure sur Internet, une autre critique les fascistes pro-Trump. Caroline s'arrête devant Sproul Hall, le bâtiment de l'administration. Au pied des marches, une plaque rend hommage à la liberté d'expression. C'est là qu'est né le Free Speech Movement, il y a 54 ans.
Vous pouviez parler politique, distribuer les tracts juste à l'extérieur du campus, mais pas sur le campus.
À la rentrée 64, l'université décide d'interdire en plus toute manifestation politique juste devant le campus. Robert Cohen a écrit plusieurs livres sur le mouvement.
L'université a décidé unilatéralement de supprimer la liberté d'expression. Les étudiants ont commencé à penser que c'était aussi une question de démocratie. Devrions-nous avoir une voix? Et puisqu'ils n'avaient ni voix ni gouvernement démocratique, ils en ont conclu que la désobéissance civile était le seul moyen de les obtenir.
Le 1er octobre, un gigantesque sit-in a lieu sur la place centrale de l'université, devant Sproul Hall. Cette voix passionnée appartient à Mario Savio, sorte de Daniel Cohn-Bendit avant l'heure. À 22 ans, cet étudiant en philosophie devient la figure du mouvement. Les marches de Sproul Hall portent son nom aujourd'hui. Simple camarade à l'époque, Lynn l'épouse quelques années plus tard.
Passion et éloquence. Ce qu'il croyait, il y croyait intensément. Je pense que ça a touché les autres étudiants qui pouvaient sentir qu'il était toujours absolument honnête avec eux.
Mais le monde a changé depuis les années 60. 1er février 2017, un groupe d'étudiants républicains invite sur le campus Milo Yiannopoulos, un penseur d'extrême droite. La conférence est annulée à cause d'affrontements entre ses partisans et des militants antifascistes à quelques mètres de Sproul Hall. Alexander Wilfert, sénateur étudiant, était présent ce soir-là.
Ce n'étaient pas des étudiants. Ils avaient 25, 30, 35 ans. Ça m'a frustré. C'est mon campus. J'ai vu la destruction du foyer étudiant. Et puis Fox News et les médias conservateurs ont dit « Regardez ces étudiants de Berkeley, ces émeutiers ».
Berkeley, symbole de la liberté d'expression, devient soudain synonyme de censure. L'été dernier, l'université a dû dépenser plus $1 million pour assurer la sécurité d'interlocuteurs conviés par des étudiants conservateurs.
Et maintenant, on est dans une situation hyper tendue, avec un président des États-Unis qui tweete sur Berkeley. Le débat repart avec chaque intervenant. On doit militariser le campus, faire venir plus de policiers et dépenser de l'argent pour la protection d'intervenants, par ailleurs, sans intérêt.
Christopher Kutz est professeur de droit à Berkeley.
L'événement de l'an dernier était le symptôme d'une sorte de guerre culturelle aux États-Unis. C'était le cirque des manifestations et contre-manifestations. Ces groupes venus de l'extérieur ont choisi Berkeley comme l'endroit où avoir ces affrontements très visibles pour qu'un camp puisse se présenter comme un martyr de la liberté d'expression et l'autre comme l'adversaire du fascisme. Je ne crois pas que ça ait généré de nouvelles idées, mais ça leur a donné une bonne couverture médiatique.
En tant qu'université publique, Berkeley n'a pas le droit d'interdire la venue d'un intervenant. L'extrême droite a réussi son coup.
J'aime bien l'idée de l'aller-retour, parce qu'effectivement, Berkeley était le symbole de la liberté d'expression, le symbole de ce moment-là, mais aussi peut-être, et c'est au fond en creux ce qu'on entend dans ce reportage, c'était la fin de quelque chose, 68, pour les États-Unis, pour ce campus comme pour les autres, en fait. La fin d'une forme d'innocence, peut-être.
Oui, alors, ce qui est très intéressant, c'est que Berkeley a connu son mai 68, mais un an plus tard. Mmh. C'est ça, ce qui est très particulier, puisque c'est au printemps 1969 qu'il y a eu, à l'occasion d'une revendication sur un parc qui devait être reconstruit, reconstruction à laquelle s'opposaient les étudiants contestataires, Et c'est ce moment-là qu'a saisi le gouverneur de Californie d'alors, un certain Ronald Reagan, mm-hmm. pour casser le mouvement étudiant de Berkeley. Il y a eu des affrontements absolument terribles, mais c'était un peu en décalage. Alors, il y a une raison, et qu'on peut relier à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où Johnson propose des négociations de paix aux Nord-Vietnamiens et aux Vietcong, et que, donc, à partir du 31 mars, les choses se tassent un petit peu sur les campus. C'est-à-dire que, on va commencer à dire que, finalement, bah, on a eu ce qu'on voulait, et que maintenant, on va pouvoir négocier un retrait, entre guillemets, un retrait dans l'honneur, et laisser éventuellement les Vietnamiens s'arranger entre eux. Donc, ce qui explique qu'il y a un peu un apaisement, et, à Berkeley, qui avait été effectivement le foyer originel, il y a une sorte d'explosion en décalé un an plus tard, et qui effectivement est la fin de quelque chose, puisque c'est sur cette répression à Berkeley que Reagan construira son aura de révolution conservatrice.
Et qui amènera d'ailleurs après, alors on avance un peu dans les épisodes, mais effectivement Johnson renonce, il y a une convention qui va être une convention difficile, et puis finalement les Américains se jettent dans les bras de Nixon, en fait, donc quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus carré finalement que ce qu'ils vivait jusqu'à présent.
Oui, parce que en fait, il y a une ambiguïté fondamentale et qui sera mesurée juste après l'élection de novembre 1968. C'est qu'après novembre 1968, 58% des Américains sondés estiment que partir en guerre au Vietnam était une erreur. Donc en fait, il y a une opposition qui est désormais nettement majoritaire. Et en même temps, il y a 70% des Américains qui s'estiment conservateurs. Et donc, ils sont contents, en tout cas, qui s'estiment conservateurs. Et il y a un peu une contradiction, puisque ça veut dire qu'en fait, parmi ceux qui s'estiment conservateurs, il y en a qui étaient aussi opposés à la guerre au Vietnam. Donc bon, c'est un petit peu contradictoire. Mais ce que ça veut dire, c'est que Nixon a su nager entre ces pulsions contradictoires, à la fois en vendant son projet qui était la vietnamisation du conflit, c'est-à-dire se retirer progressivement et laisser les sud-vietnamiens capables d'assurer leur défense par rapport aux nord-vietnamiens communistes. Et en même temps, c'est lui qui sait le mieux surfer sur la volonté de retour à l'ordre, de fin de toute cette contestation étudiante, de ces désordres qui ont culminé au moment de la convention démocrate que vous évoquiez. Et c'est lui qui a su le mieux trouver ce compromis, en fait.
Alors, avant le compromis, avant ce moment-là, il y a aussi l'autre secousse, là, pour le coup, vraiment tellurique. Ça se passe en avril 1968, ça se passe à Memphis, et ça concerne ce monsieur-là.
Eh bien, je ne sais pas ce qui va arriver maintenant. Nous avons devant nous des jours difficiles. Mais peu importe ce qui va m'arriver maintenant, car je suis allé jusqu'au sommet de la montagne. Je ne m'inquiète plus. Comme tout le monde, je voudrais vivre plus longtemps. La longévité a son prix. Mais je ne m'en soucie guère maintenant. Je veux simplement que la volonté de Dieu soit faite. Et il m'a permis d'atteindre le sommet de la montagne. J'ai regardé autour de moi. Et j'ai vu la terre promise. Il se peut que je n'y aille pas avec vous. Mais je veux que vous sachiez, ce soir, que nous, en tant que peuple, nous atteindrons la terre promise. Et donc je suis heureux ce soir, je ne suis pas inquiet, je ne crains personne. J'ai vu la gloire de la venue du Seigneur.
On est le 3 avril 68, il est incroyablement prémonitoire ce discours de Martin Luther King, parce que c'est le dernier, le fameux Mountaintop Speech, c'est le dernier, il dit « je ne sais pas jusqu'où j'irai », ben plus très loin, puisque l'assassinat est juste là, juste derrière, Corentin Célin.
Oui, tout à fait. Alors, il faut toujours rappeler déjà que c'est plus tout à fait le même Martin Luther King qui a eu le prix Nobel 4 ans auparavant.
La non-violence, on a pris un coup déjà avant.
Ouais. Voilà, ouais. C'est-à-dire qu'il a... Quelque part, une partie de son projet initial a trouvé un accomplissement dans les grandes lois, justement, du président Johnson sur les droits civiques, sur l'inscription, en particulier, des Afro-Américains sur les listes électorales, qui a eu lieu, alors, avec bien des difficultés, hein, on le sait, dans le Sud, en 1965. Et, en quelque sorte, le projet d'égalité de Martin Luther King a été en partie réalisé. Et c'est ce qui l'amène, à partir de 1966-67, à défendre une idée beaucoup plus sociale, alors qu'on peut trouver plus radicale, radicale, beaucoup plus socialisante, où il veut désormais aller vers des États-Unis plus justes socialement.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est à Memphis ce jour-là.
Exactement,
parce qu'il faut un rassemblement d'éboueurs.
Voilà, parce que alors il y a eu deux malheureux éboueurs qui avaient été tués à cause de conditions de travail déplorables. Donc deux éboueurs évidemment afro-américains, puisque c'était ces métiers particulièrement pénibles étaient réservés entre guillemets aux afro-américains. Donc deux afro-américains avaient été tués par leur machine à cause de conditions de travail déplorables, et cela avait déclenché une grande grève des travailleurs, des éboueurs dans cette ville. Et Martin Luther King était venu les soutenir, puisqu'il avait un projet ce qu'il appelait la marche des pauvres gens, hein, si on traduit, c'est-à-dire de coaliser tous ceux qui, blancs de la classe ouvrière, mais afro-américains, mais de toutes les minorités qui souffraient de cette pauvreté engendrée par le capitalisme. Et donc, on avait un Martin Luther King beaucoup plus socialisant qui se dessinait et qui en quelque sorte était dans la deuxième phase de son projet.
Et qui annonce à la nation, ou en tout cas à ses supporters, puisqu'il y a une élection à venir, qu'il est candidat à l'investiture, qui annonce que Martin Luther King est mort, quelqu'un qui ne sait pas lui-même évidemment que 6 semaines plus tard il sera mort lui aussi.
Could you lower those signs, please?
Et c'est donc Bobby Kennedy on est devant un meeting, il demande aux gens de baisser leur pancarte pour leur annoncer ceci.
Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis. Martin Luther King dedicated his life.
Martin Luther King a dédié toute sa vie à l'amour et à la justice pour ses compatriotes. C'est pour ça qu'il est mort.
He died in the cause of that effort. In this difficult day, in this difficult time for the United States,
en ce jour et en ces temps difficiles pour les États-Unis, il devrait être bon de nous interroger sur notre pays et dans quelle direction nous voulons aller.
For those of you who are black, considering the evidence evidently is that
pour vous qui êtes noirs, vous pouvez avoir de l'aigreur, de la haine et un désir de revanche.
And a desire for revenge. We can move in that direction as a country.
Le pays tout entier peut aller dans cette direction. Les Noirs avec les Noirs, les Blancs avec les Blancs. Ou alors, on peut faire comme l'a fait Martin Luther King, se comprendre les uns les autres, remplacer cette violence et cette tache de sang qui s'est répandue dans ce pays par de la compassion et de l'amour.
Et on n'y est pas encore hein, à ce moment-là de l'histoire américaine, Corentin. C'est là finalement, si on se résume, 68, c'est la nation qui a perdu ses illusions, en fait, qui a perdu beaucoup de ses idéaux, finalement. C'est ça que ça dit, cette année-là.
Oui, alors avec ce double choc effectivement successif, parce que dans le discours qu'on vient d'entendre, Bobby Kennedy, en quelque sorte, trouve sa voix. L'ancien féru combattant anticommuniste, qui était souvent l'homme des basses œuvres de son frère, qui se cherchait depuis la mort de celui-ci, qui cherchait une raison de vivre, se trouve tout à coup... Revêt le manteau de Martin Luther King et le projet qu'il défendra pendant les 6 semaines où il reste en vie, c'est celui de Martin Luther King, c'est-à-dire de défendre les plus pauvres, les minorités, toutes les minorités qui souffrent. Et il se trouve une voix progressiste dans ce magnifique discours et il relance l'illusion parce que pendant les 6 semaines où il est en vie, sa campagne est une véritable presque marche triomphale, mais au sens où il engage un enthousiasme encore plus fort que celui de son frère, et son assassinat, qui lui aussi est en direct à la télévision, on se souvient des visages effarés de ses supporters qui se disent « c'est pas vrai, ça recommence », c'est vraiment là l'effondrement, c'est-à-dire qu'on a tué un deuxième Kennedy, on tue une deuxième fois l'espoir, et Ted Kennedy il dira très bien dans le très émouvant éloge funèbre qu'il rendra à son frère, il dira, c'est très dur de pouvoir aujourd'hui croire qu'il y a encore un après et un espoir. Donc, effectivement, c'est tout à fait cela. C'est-à-dire que c'est vraiment la mort des illusions.
Et c'est vrai que, ce sera la dernière question, je regarde la culture américaine autour, la culture pop, ce qui sort de cette période-là aussi. Je pense à des films emblématiques comme Voyage au bout de l'enfer ou des choses comme ça, où le héros américain, justement, en prend pour son grade. C'est beaucoup plus compliqué pour lui. C'est après seulement, bien après, que reviendront les musclés. Les très musclés. À ce moment-là, on est plutôt dans une perte d'illusion, dans une dépression terrible, on est dans tout tout ça.
Alors justement, il y a un très très bon exemple, c'est qu'en 1968, il y a John Wayne, donc l'incarnation de la virilité du western américain, qui a tenu à toute force à faire son fameux film pro-Vietnam, donc Les Bérets Verts, et que finalement la Warner elle-même refuse de sortir parce qu'elle trouve que c'est vraiment une œuvre de propagande assez grossière. Et en fait, il va le sortir exactement, voilà, en mars-avril 1968. Et c'est un film bon qui rencontre pas du tout un grand succès et qui montre effectivement l'époque du poor lonesome cowboy, mais qui triomphe toujours. Ça marche pas à l'époque de l'Amérique du Vietnam.
Merci beaucoup, merci mille fois d'avoir balayé cette année 68 aux États-Unis avec nous, Corentin Célin. La suite de l'année 68 dans le monde, dans Un jour dans le monde, c'est demain. Nous serons au Biafra. La guerre, le pétrole, le droit d'ingérence inventé, le premier chaos humanitaire aussi, filmé, photographié. Merci beaucoup.
France Inter. Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Et la suite d'Un jour dans le monde sous les radars et Florence Paracolos, notamment dans ces pays qui arrêtent de surprotéger leurs enfants. Le cinéma en VO, Eva Bétan, vous avez revu tous les Wenders qui comptent alors.
Oui,
la chance.
C'est les Wenders les premiers et où vous voyez que tout est là de ce type qui est formidable, qui est un aventurier, qui est un poète et qui est généreux.
Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Fabienne,
formidable,
bonsoir.
Jean-Marc, il n'y a plus de migrants en Méditerranée alors.
Mais surtout, au rythme où ça va, il y aura bientôt plus d'ONG pour secourir les migrants, donc on pourra dire il n'y a plus de morts en Méditerranée puisqu'il n'y aura plus personne pour les voir.
Allez, à tout de suite, ce sera à 18h. 8h55, James Brown dans Un jour dans le monde sur France Inter aussi, Hot Pants.
1, 2, 1, 2, 3, 1. Hot Pants. Hey, Hot Pants. Hot Pants. Smoking Hot Pants. The bar is at. The night bar is at. Take your minds up on. It looks much better time. My people keep going. Girl, blowing my mind. Thinking of losing that funky feeling, don't. 'Cause you got to use what you got to get just what you want. Hey, hot pants. Hey, hot pants. Smoking. Hot pants make you shoot yourself. Good God, you won't break. You got the only love left. Hey, so brother, if you're thinking of losing that feeling, then don't. 'Cause a woman got to use what she got to get as much as you want. Hey, hey, hot pants. Now look, hot pants. Won't make you dance, but as slick as you are, you make the pants. Hey, bro, do you like it? The girl over there put funky pants on. She can do the ticking all night long. The girl over there put the hot pants on. She can do the funky Broadway. Put the hot pants on, filthy Mac dance all night long. Get down, the one over there with the band dress. I ain't got time. I still dig that dance. Get down, good God, dig it.
Hot Pants, et comment donc, James Brown sur France Inter, Florence Paracuello, c'est là.
France Inter.
Good evening and welcome.
You're as much of a capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Quoi, Florence Paracuello, on reste aux États-Unis, le pays où les acteurs ont tous leur chance en politique. La preuve, Ronald Reagan, on en parlait à l'instant, Arnold Schwarzenegger, et donc Cynthia Nixon.
Et oui,
pas
Cynthia Nixon, rien à voir avec le président du Watergate, Fabienne. Cynthia Nixon, c'est Miranda dans la série Sex and the City, vous savez, la rookie, mère
oui,
de famille.
Très, très bien.
I'm in the woods in my negligee and my cell phone only has two bars left. Help!
Are you lost? Completely. The fire, the tub. We've already done it twice today.
C'était it's like tellement
the sex bien. Is the only thing on the itinerary.
Voilà, des femmes qui parlent de sexe à New York. C'était ça le principe de la série. On garde New York, on garde les femmes, on enlève le sexe. Ça donne Cynthia Nixon, candidate au poste de gouverneur de l'État de New York.
Le
poste.
Beaucoup rire, Eva Bétan.
Le poste est remis en jeu à l'automne, juste après les primaires démocrates, où elle compte bien renverser l'actuel gouverneur, le puissant Andrew Cuomo, lui aussi démocrate, en poste depuis 2011. Sa ligne à elle est beaucoup plus à gauche, développée dans son premier discours public hier soir dans un quartier pauvre de Brooklyn.
And let me tell you about this kind of
laissez-moi vous dire, au sujet de l'explosion des inégalités, on ne peut pas parler de fatalité. C'est un choix qui a été fait d'alléger les taxes pour les entreprises et pour les plus riches en allégeant les services publics pour tous les autres. Ça a été le choix des républicains, comme Donald Trump, et ça a été le choix de notre gouverneur Andrew Cuomo ces 8 dernières années. Et Cynthia Nixon parle du métro new-yorkais qui marche de moins en moins bien, des écoles publiques sous-financées, elle y met ses enfants, elle empoigne aussi la cause des femmes, elle qui est mariée à une militante des droits des homosexuels. Si nous voulons que les choses changent, c'est à nous d'agir. Évidemment, l'affaire Weinstein est passée par là. Pour l'instant, les sondages la donnent très bas par rapport à Cuomo aux primaires, mais elle a le soutien tacite du maire de New York, Bill de Blasio, et elle fait souffler un air frais sur le camp démocrate new-yorkais, là où Cuomo brigue un troisième mandat après avoir été éclaboussé par des scandales de corruption. Donc tout est possible d'ici l'automne. Je vous propose qu'on la suive de temps en temps.
Absolument,
Fabienne.
Régulièrement,
voilà,
voir ce qu'elle devient,
qu'on
la dame.
Prenne des nouvelles.
Il n'y a pas qu'en France, sinon, Florence, que sévit la rougeole, maladie contre laquelle existe un vaccin, rappelons-le, depuis
un vaccin depuis une cinquantaine d'années. En Serbie, la rougeole a tué 12 personnes ces 3 derniers mois et des parents accusent les anti-vaccins de les avoir influencés. La justice a ouvert une enquête contre une quarantaine de personnes. Des militants, un écrivain, un médecin, une chanteuse, des célébrités qui ont leur part de responsabilité avec leurs tweets et leurs messages Facebook, disent les plaignants. Les parents sont aussi pointés du doigt par le ministre de la Santé. L'épidémie qui touche presque 4000 personnes n'aurait pas pris ses proportions s'ils avaient écouté leur médecin plutôt que Yelena Karleuza, blonde chanteuse de turbo folk. Je vous ai épargné sa musique,
bonjour,
Fabienne.
Merci.
En France, dans la catégorie célébrité anti-vaccin, nous avons Isabelle Adjani qui tient la corde, mais personne n'a encore porté plainte.
Non, mais elle ne fait pas de turbo-folk, hein, dont je serais assez curieuse d'entendre ce que ça peut donner. Sinon, halte à la surprotection des enfants. Confrontons-les donc aux risques. C'est ce que commencent à dire des pédagogues en Australie, en Suède ou en Grande-Bretagne.
Et une école maternelle et primaire fait figure de pionnière à Essex, en Angleterre. Depuis 3 ans, plus de petites maisons de plastique dans la cour de récré, plus de revêtements en caoutchouc sur le sol, plus de bacs à sable, mais un bac à boue, des piles de briques. Le reste est décrit par la directrice de l'école, interrogée sur une radio britannique.
We brought in the logs, the crates.
On a rapporté des bûches, des caisses, des planches. À l'intérieur, on a des distributeurs de scotch, des agrafeuses, des couteaux pour beurrer le pain, des choses auxquelles les élèves sont confrontés dans leur vie de tous les jours. Ils peuvent maintenant les utiliser à l'école. Ça les rend plus indépendants, ça leur prouve qu'ils sont résilients, ils persévèrent. C'est bon pour leur évolution mentale et physique, dit la dame. Dans cette école, il y a aussi des établis avec des marteaux et des scies. À l'occasion, on allume un feu, Fabienne, pour apprendre aux élèves à se comporter face aux flammes. Tout cela de façon évidemment très encadrée et très pensée, comme un retour de balancier après des décennies de bannissement du risque. Une étude citée par le New York Times indique par exemple que 95% des petits Anglais de 9 ans allaient tout seuls à l'école en 1971 contre seulement 25% 20 ans plus tard. On imagine que la proportion est la même chez nous. Désormais, fleurissent dans des espaces de jeu dans les parcs anglais, des espaces de jeu différents, Fabienne, à Londres. Le terrain de jeu Princess Diana de Kensington Garden indique sur un panneau que des risques ont été intentionnellement ajoutés pour que votre enfant apprenne à les appréhender, pour pouvoir les expérimenter ensuite dans la vraie vie.
Et bien voilà, tiens, tenez, prenez ce marteau pour vos fils ce soir au repas.
J'y vais de ce pas.
Merci beaucoup, Florence. Allez, ciné.
3, 2, 1...
France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is... Un jour dans le monde.
Action!
Le cinéma en VO, Eva Béton. Alors, pas un, pas deux, pas trois, mais sept Wim Wenders au programme. Quelle chance.
Moi, je suis ravie. Moi, ça me va.
Alors oui, parce que c'est le plus connu des cinéastes allemands, évidemment, en tout cas
et
par
le plus
nous.
Aimé.
Le plus proche des Français aussi, Wim Wenders. Six de ses premiers films, donc, Eva, restaurés, remasterisés par sa fondation. Ils sont déjà en salle.
Ils sont déjà en salle et Les Ailes du Désir sortent le 25 avril.
Voilà.
Et donc, je veux dire que, d'abord, la restauration est formidable, donc il l'a surveillé lui-même. C'est voir les films dans leur beauté originelle. Par exemple, pour Les Ailes du Désir, c'est même mieux que ce qu'on avait pu voir à l'époque parce que, je vais vous passer des détails techniques, mais le film était en noir et blanc et en couleur. Et donc, pour développer ça, vous perdiez du noir et blanc. Le noir et blanc sublime d'Ariel Ekan, du grand directeur de la photo de La Belle et la Bête. Et là, c'est dans l'état originel. Alors, il y a ce côté voir dans la... dans le jus, dans la beauté du cru, mais il y a aussi voir que tout était là dès le début. Ce ne sont pas des films confidentiels, hein. Il a été célèbre assez vite, d'abord connu des cinéphiles, puis du grand public. Dans ces films, vous allez avoir L'angoisse du gardien de but au moment du pénalty, Alice dans les villes, Faux mouvement, Au fil du temps, L'ami américain, film très important qu'il tourne, où il va faire tourner. Il y a une chose formidable chez Wenders, c'est qu'il aime les autres artistes. Il va demander à des pères du cinéma, comme Samuel Fuller, de venir jouer un gangster dans son film. Et pour un film, vous verrez un film formidable qui s'appelle L'état des choses, qui a eu le Lion d'or à Venise. Il va apporter de la pellicule à Raoul Ruiz qui a du mal sur un tournage au Portugal. Et c'est comme ça qu'il commence à tourner un film. Tout ça, c'est Wenders. Quand on regarde le générique des films, on voit que date, c'est entre 70 et 80, au générique, il y a marqué RFA. Ça veut dire que c'est des films d'avant la chute du mur. Qu'est-ce que c'est que d'être un Allemand, un jeune Allemand cinéaste à ce moment-là?
Bon, c'était mon pays qui était coupé en deux. L'autre moitié de mon pays, c'était plus loin que l'autre côté de la Lune, pour ainsi dire. J'ai fait un film qui fait tout le voyage du mur qui séparait les deux Allemagnes au fil du temps. Ça suivit cette zone de démarcation. Et on voyait de l'autre côté, il y avait l'autre Allemagne, mais c'était le pays le plus inconnu pour moi.
Est-ce que vous avez senti le poids d'être Allemand? Vous étiez la génération qui est venue après. Après des horreurs, est-ce que vous avez senti ce poids?
Oui, bien sûr. Tout ce que je voulais déjà comme boss, c'était partir, aller voir le monde où il n'y avait pas ce poids, il n'y avait pas ce feeling que quelque chose n'allait pas et que surtout il ne fallait pas regarder par l'épaule en arrière. C'est quelque chose qu'on ressentit même quand on est un gosse. Mais finalement, après une quinzaine d'années que j'ai tourné aux États-Unis, à l'étranger, je suis quand même revenu. Et Les Ailes du Désir, c'est le film de quelqu'un qui veut retrouver son propre pays et qui a une grande envie de redéfinir de ce que c'est être Allemand. C'est ça la base des Ailes du Désir.
Qu'est-ce que c'est qu'être Allemand? Nous, on voit un beau film poétique, on voit un ange, on voit... Qu'est-ce que c'est?
Il fallait bien avoir les yeux des anges pour pouvoir regarder ce pays de nouveau. Il fallait bien avoir le regard plein de tendresse et d'amour des anges pour regarder un Berlin qui était quand même une ville extrêmement en dépression.
J'adore l'entendre, en fait.
Ah, mais la voix, la voix, c'est l'atmosphère, ça correspond à l'atmosphère de ces films. Je vais dire une chose qui va sembler nunuche, mais non. Il y a de la bonté dans les films de Wenders. Il y a une sorte de générosité. Je précise une chose, c'est que les films ne sortent pas qu'à Paris. Ils sortent dans plusieurs villes. Ils sont aussi à Lille, Montpellier, Vienne, Nyons, Montauroux, etc. Je vais pas vous les dire toutes. Et c'est important parce que quelquefois, les gens sont frustrés quand c'est qu'à Paris.
Eh ben, si vous avez la liste, on la mettra sur le site d'Un jour dans le monde. Comme ça, les gens pourront...
Il y a Saint-Gaudens aussi.
Mais c'est important pour les gens de Saint-Gaudens. Oui. Et 7 Wim Wenders, figurez-vous, ça se fête. Merci Eva.
Le 18-20, Fabienne Synthès sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four dans Un jour dans le monde, comme tous les jours. Jean-Marc, ça fait plus vraiment la une, mais le mouvement migratoire en Méditerranée, évidemment, il continue sur fond de tension entre gouvernement et ONG. Et aujourd'hui, on a appris que le bateau d'une ONG espagnole venait d'être arraisonné, ça s'est passé en Italie, pour avoir porté secours à des réfugiés. Dans votre monde à l'envers, Jean-Marc, ce que vous dites ce soir, c'est que bientôt, il n'y aura plus personne pour voir les naufrages, puisque il n'y aura plus de bateau, donc on pourra dire il n'y a plus de morts en Méditerranée.
Ouais, c'est le principe, si vous voulez, du pas vu, pas pris. Impossible d'affirmer quelqu'un est mort s'il n'y a personne pour le constater. Donc vous allez comprendre. Effectivement, jeudi dernier, le navire Open Arms de l'ONG espagnole Proactiva est saisi dans le port italien de Pozzello. Il vient de débarquer 216 réfugiés sauvés en pleine mer. Son capitaine, ses deux adjoints sont menacés de poursuites pénales jusqu'à 7 ans de prison pour trafic d'êtres humains et aide à l'immigration irrégulière. Les autorités italiennes leur reprochent quoi ? Essentiellement d'avoir refusé de remettre les réfugiés en question aux gardes-côtes libyens qui les réclamaient, fusil au poing, et ce, en dehors des eaux territoriales libyennes. Après cet arraisonnement, il ne reste qu'un seul navire d'ONG en Méditerranée, c'est l'Aquarius français qui a déjà sauvé 28 000 personnes en 3 ans. Flashback, on remonte juste un an en arrière. Pas moins de 10 ONG avec autant de navires étaient alors présentes et travaillaient de façon coordonnée. L'an dernier d'ailleurs, près de la moitié des migrants ont été secourus par ces navires, l'autre moitié par des bâtiments militaires. Et puis progressivement, en 12 mois, toutes les ONG ont jeté l'éponge. Soit leur bateau a été saisi, comme Proactiva là, soit elles ont renoncé de peur des représailles judiciaires. On peut le noter au passage, désormais l'Europe menace de jeter en prison des gens qui sauvent leur prochain. Bienvenue sur le continent des philosophes des Lumières. Passons. Au rythme où ça va en tout cas, il n'y aura bientôt plus personne pour voir si les migrants se noient en mer. C'est un peu comme de dire aux journalistes de ne pas aller dans le quartier de la Ghouta à Damas. Pas de témoins, pas de preuves. Comment ça, il y a des morts à la Ghouta ? Comment ça, il y a des morts en Méditerranée ? Pas vu.
Alors, il y a quand même des chiffres officiels, Jean-Marc.
Oui, c'est vrai, et très officiels d'ailleurs, puisqu'ils viennent de l'Office international des migrations, l'ONU si vous préférez. Je vais vous en donner trois. 16 000, c'est le nombre de morts de migrants en Méditerranée depuis 2013. Près d'un quart sont des enfants. Et l'ONU précise que c'est très sous-estimé, puisqu'il y a en plus les disparus en mer, qui ne sont jamais retrouvés, pas décomptés. 495, c'est le nombre de morts depuis le début de cette année 2018, moins que l'an dernier, mais autant qu'en 2015. Et les mois traditionnellement les plus meurtriers sont devant nous, avril, mai, juin. Enfin, dernier chiffre, 65%, donc les deux tiers. C'est la part de la Méditerranée dans le nombre de morts au niveau mondial. Autrement dit, la Méditerranée est de très loin le premier cimetière de migrants au monde. Dans leur quasi-totalité, ils meurent au large de la Libye. Les victimes sont beaucoup moins nombreuses entre le Maroc et l'Espagne d'un côté, entre la Turquie et la Grèce de l'autre. Ils viennent d'où ? De plus de 20 pays, beaucoup d'Afrique, de l'Est comme de l'Ouest, notamment Nigeria, Érythrée, mais aussi de Syrie, du Pakistan, du Bangladesh. Voilà, vous avez les statistiques, mais bon, ce sont des chiffres abstraits, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire de peu de poids face à la lassitude et au mépris des opinions occidentales et face à l'instrumentalisation politique du sujet. En fait, ils ne pèsent rien, ces morts, ces statistiques, ils n'existent pas, dormez en paix, braves gens, je vous le dis, il n'y a plus de morts en Méditerranée.
Alors, l'Union européenne a quand même mis en place une politique, Jean-Marc, qui vise à dissuader les candidats à l'exil de prendre la mer.
C'est ça, ça marche un peu, le nombre de migrants a diminué l'an dernier. Concrètement, ça se traduit comment ? L'Europe sort le carnet de chèques pour équiper et former les gardes-côtes libyens afin qu'ils interceptent les candidats au départ. Et on le disait tout à l'heure, ils se font pas prier les gardes-côtes en allant jusque dans les eaux internationales. Une fois qu'ils interceptent un canot pneumatique bourré à craquer, que se passe-t-il à votre avis ? Option 1, mouvement de panique parmi les réfugiés, la plupart sautent à la mer. Tiens, des disparus. Pas grave, pas décompté parmi les morts. Option 2, retour en Libye. Et là, le sujet est désormais bien documenté. Qu'est-ce qui attend les migrants ? Viol pour les femmes, torture pour les hommes, esclavage pour les enfants, camp de séquestration pour la plupart. Mais bon, ils vont pas se plaindre non plus, c'est quand même un vrai progrès, au moins ils ne meurent pas. Vous voyez, il n'y a plus de morts en Méditerranée.
Jean Marfour et Le Monde à l'envers, tous les soirs dont un jour dans le monde. Merci beaucoup, le 18-20 de France Inter continue avec le journal et puis le téléphone sonne. On essaye de réconcilier la médecine avec l'homéopathie ce soir.